période de Tisha B'Av, nous commençons à lire le livre de Devarim. Le livre de Devarim va ensemble avec cette journée du 9 Av qui devait être une journée extraordinaire et qui, en fait, de par sa puissance, s'est transformée en ce que nous connaissons aujourd'hui. La destruction des deux temples et beaucoup d'autres événements dans l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi je dis que c'était une journée et que c'est encore une journée dont le potentiel est énorme? Mais tout simplement parce que c'était la date à laquelle nous devions fêter la conquête de la terre d'Israël. De la même manière que le 17 Tammuz, si on regarde en fait l'essence de la journée, et non pas seulement les résultats, et aujourd'hui malheureusement nous ne faisons que regarder les résultats, donc lorsque nous parlons du 17 Tammuz et du 9 Av, vous n'entendrez que des gens qui vous disent 17 Tammuz, la brisure des tables, 9 Av, la destruction du Beth Amikdash. C'est de cette manière qu'on a l'habitude d'aborder les sujets de notre vie. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous ne voyons que les résultats sans jamais voir les sources. Où est-ce que cette façon d'agir est née? Dans une mentalité d'exil qui est, en réalité n'est pas seulement la sortie de l'homme du territoire qui appartient à sa structure naturelle, mais d'une manière générale de la sortie de l'homme de lui-même, c'est-à-dire une personne qui n'arrive plus à aborder les sujets depuis l'intérieur, mais dans leur aspect superficiel. Et lorsqu'on aborde les sujets de notre vie d'une manière superficielle, eh bien, nous touchons, par la force des choses, que les résultats. Avoir un bouton et traiter le bouton à la place du bouton, sans voir si le sang n'a pas été contaminé, sans voir la cause de ce bouton, mais c'est exactement ce à quoi la mentalité de l'exil nous a conduit. Et donc nous abordons tous les sujets de la même manière. Et toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont malheureusement abordées dans leur aspect extérieur, superficiel, qui est important, mais sans le côté intérieur, la source de chaque chose, eh bien, nous avons en réalité un regard qui est erroné et des conclusions erronées. Si on regarde la fête de Hanouka, on a l'impression que manger des beignets et allumer, c'est l'essentiel. Si on voit Pourim, on se déguise et c'est l'essentiel. On ne comprend pas le sens profond des choses parce que, malheureusement, l'habitude de voir superficiellement et répercuter sur l'ensemble de notre vie. Aujourd'hui aussi, nous évaluons les choses selon ce que nous voyons, selon l'aspect extérieur des choses. Quelqu'un qui nous paraît être est. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Nous achetons aujourd'hui, nous consommons aujourd'hui, essentiellement par l'approche superficielle. Si l'emballage est beau, si la couleur est belle, on achète. Sans comprendre l'essence. Eh bien, je vous propose une nouvelle lecture, un nouveau rapport à cette essence. Le 17 Tammuz, par exemple, puisque nous parlons d'une période de Bein HaMetzarim entre deux étroitesses, puisque Bein HaMetzarim, Metzarim c'est au pluriel, sous-entendu il y en a deux, le 17 Tammuz qui commence le Metzar, l'emprisonnement, et le 9 Av qui le clôture. Et entre les deux, il y a une période de 21 jours. Et si on ne sait pas aborder ces deux dates, eh bien on ne comprendra que l'aspect superficiel. Donc le 17 Tammuz restera la journée où les tables se sont brisées. Personne n'a l'idée de se dire, mais attends, si les tables se sont brisées, c'est qu'elles ont été données. C'est que l'Éternel a prévu de donner la Torah au monde ce jour-là. Tout ce qui t'intéresse, c'est que ce soit brisé. Tu n'as pas compris que ce jour-là était prévu pour faire le lien entre le ciel et la terre. Et le 9 Av, pareil. Puisque le verset dans le livre de Devarim que nous venons de lire hier nous dit clairement que 11 jours sont nécessaires pour faire le lien entre le don de la Torah et l'entrée en Eretz Israël. C'est très simple. Si le don de la Torah, c'était le 17 Tammuz, bien que raté, mais c'était le don de la Torah, ça reste le jour où Dieu a prévu de donner la Torah. Le fait que toi, tu ne l'aies pas reçu, ça ne change rien. Lui donne. D'ailleurs, tu le dis, Baruch ata Hashem noten la Torah. Pas, il l'a donné, il la donne. Et c'est toujours à la même date. Alors, sois capable un jour de recevoir sans briser ses tables. Dieu ne change pas. C'est-à-dire, s'il a prévu de donner la Torah le 17 Tammuz, c'est fini, c'est à vie, c'est éternel. Et il redonne la Torah chaque 17 Tammuz. Demandez à quelqu'un dans la rue s'il sait ça. Eh bien, le verset nous dit, dans le livre de Devarim, « Achad asar yom michorev, derech har seir ad kadesh parnea. » 11 jours entre Chorev, le mont Sinaï, là où on reçoit la Torah, donc le 17 Tammuz. Je ne fais pas attention maintenant, brisé ou pas brisé. Je suis dans la prévision divine du départ. Je suis dans le lechatrila, je ne suis pas dans le bedi'avad, a posteriori, non. Je suis dans la structure première, originelle. Mais vous comptez du 17 Tammuz, 11 jours, vous arrivez à Rosh Chodesh Av. Donc Rosh Chodesh Av, on aurait dû rentrer en terre d'Israël. C'est très simple, la Torah qui le dit. Qui fait attention à ce verset? Rentrer en Eretz Israël, ce n'est pas la conquérir, il faut au moins. Et puisque dans la bonne constellation des choses, si on avait reçu la Torah le 17 Tammuz, 11 jours plus tard, on aurait été en Eretz Israël, et il fallait, en accélérant le temps, 7 jours pour conquérir la terre. Donc on arrive au 9 Av. Le compte est bon, tellement simple. Ça veut dire que nous avons ici deux dates qu'on a complètement oubliées. Le 17 Tammuz, le don de la Torah, le 9 Av Yom HaAtzmaut. Ben oui. Aujourd'hui, dans vos têtes, 17 Tammuz, brisure des tables, 9 Av, destruction du temple. Pnei hador ke pnei hakelev. C'est-à-dire, un chien, on le frappe avec un bâton, au lieu de comprendre que quelqu'un tient le bâton, il mord le bâton. Si on ne s'adresse pas à la source des choses, c'est ce à quoi on arrive. Il faut un petit peu sortir de ce contexte et de cette... C'est un piège mental dans lequel nous sommes tombés Et plus grave que cela, c'est que si je ne connais pas la source du problème, comment pourrais-je le corriger? Alors, quelqu'un pour qui le 9 Av c'est la destruction du temple se dit la seule correction c'est de le reconstruire. Encore une fois, superficiel, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais prendre des pierres, je cherche un kablan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as raté? Mais pour savoir ce que tu as raté, il faut savoir ce qui était prévu. Donc le livre de Devarim est un livre à part entière. Et c'est pour ça qu'il commence à la période, chaque année, du 9 Av. Tout simplement parce que le 9 Av devait être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour de la conquête de la terre d'Israël, donc le jour de l'indépendance. C'est une fête. D'ailleurs, la Megillah de Echa considère ce jour-là, aujourd'hui même, comme une fête, puisque nous ne disons même pas Tachanoun. On appelle Moed. Moed en hébreu veut dire Hitva'adut, c'est-à-dire un jour de rendez-vous. Rendez-vous avec quoi? Entre qui et qui? Très simplement, entre le ciel et la terre. Par le peuple d'Israël avec son épouse, la terre d'Israël. Si tu as oublié cela, eh bien ça reste destruction du temple, destruction des tables. Tout est comme ça, superficiel. Je ne sais pas où on va, on jeûne, on se met par terre. Et comment tu penses corriger tout ça? Ou bien tu éduques les nouvelles et prochaines générations à la même torpeur, au même rapport aux choses? Tu t'en sortiras jamais. Jamais on s'en sortira. Donc je pense réellement qu'aujourd'hui, il est grand temps d'aborder la Torah avec l'œil du divin. C'est pas moi qui le dis. La Gemara le dit d'une manière explicite. Alma avda haaretz. Pourquoi la terre a été perdue? Plusieurs réponses. L'une d'entre elles, « Al-Ozvam et Torati ». Encore une fois, traduction en français qui ne veut toujours rien dire parce qu'ils ont laissé tomber la Torah, c'est marqué nulle part, ce n'est pas ce que je viens de dire. « Al-Ozvam et Torati », les Chachamim sont précis. Et c'est Dieu qui parle, en l'occurrence ici, parce qu'ils ont lâché ma Torah, pas la leur. Torati al ta'azovu. L'otoratrem. Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés de Torah. Il y a la Torah et il y a ma Torah, celle de l'Éternel. Dieu sait parler. C'est lui qui a créé cette langue. Ce n'est pas par hasard. Il faut être très précis dans le langage de nos sages. Sinon, tu ne peux pas étudier. Alors qu'est-ce que ça veut dire quitter ma Torah? C'est exactement ce dont quoi je vous parlais tout à l'heure. Ma Torah, la Torah de Dieu, c'est la Torah de l'âme, de l'intériorité des choses. C'est ça que vous avez quitté. C'est pour ça que vous perdez la terre. Parce que quand vous ne savez pas aborder cette terre avec son sens intérieur, de l'âme, de l'ordre de la Neshama, eh bien, vous allez avoir un accès superficiel à cette terre. Or, dans une comparaison superficielle, il est possible que tu trouves une autre terre beaucoup plus belle, beaucoup plus attirante, un autre pays beaucoup plus facile à vivre. C'est normal. D'ailleurs, Avtalion le dit dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot. Chachamim hizaharu bedivrechem. Si vous enseignez la Torah, pas faites attention à ce que vous dites. Ça, c'est dans le premier degré de la lecture. Mais le pshat, c'est hizaharu bedivrechem. Mettez du zohar dans vos paroles. Qu'est-ce que c'est que le zohar? C'est la splendeur, c'est la Torah de la terre d'Israël. Rabotai, aujourd'hui, c'est le deuil de la méconnaissance du Zohar. C'est ça pourquoi vous êtes en train de pleurer et de jeûner. Mais personne ne le sait. Parce que on s'adresse qu'au superficiel, on m'a cassé le jouet. J'avais un bâtiment, il s'est brisé. Et pourquoi? Parce que ce bâtiment, tu ne le voyais que superficiellement, tu ne savais pas ce qu'il tenait dans son sein. Cette terre, tu n'as pas compris son essence. Même Moshe Rabbeinu, quand on vous pose la question pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas entré en terre d'Israël, vous répondez tous parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. C'est pas ce que Moshe raconte dans le livre de Dvarim. Dans le livre de Dvarim, Moshe dit pourquoi il n'a pas eu le mérite d'entrer en terre d'Israël. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Bien, tout simplement, et quand on comprend ce que je vais vous dire, alors on comprend rétroactivement aussi ce que ça veut dire qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Parce que c'est la même faute. Mais dans la tête de quelqu'un qui étudie superficiellement, ça devient un acte superficiel, frapper ou parler. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Et si vous quittez ma Torah, vous allez tomber dans n'importe quoi. Chachamim hizaharu bedivrechem, shema tachovu chovat galut. Parce que si vous ne mettez pas du zohar dans vos paroles, je vous avertis, vous allez sortir en exil. Veishtu hatalmidim habayim acharechem min hamayim hamarim. Et les élèves que vous êtes en train de former, sans cette étude-là, vont venir boire parce qu'ils boivent vos paroles, vous êtes les maîtres. Veyamutu. La Mishnah, hein, je n'invente aucune phrase. Ils vont mourir, ces mêmes élèves. Mourir de quoi? Bien, d'une Torah superficielle. On peut mourir d'une Torah superficielle? Oui. La mort, ce n'est pas être enterré à Givat Shaul ou être vivant. C'est vivre pleinement ou bien vivre superficiellement. Quelqu'un qui ne vit que superficiellement n'est pas à proprement dit vivant. Il est dans une vivière, en train de mourir. Pour vivre réellement, pleinement, il faut vivre dedans et dehors. Pleinement la neshama et le corps, dans l'association des deux. Si pour toi la Torah c'est un monde de l'esprit et que Dieu est spirituel, tu es quelqu'un de paumé puisque sur terre tu ne le trouveras jamais. Puisque ce sont des choses viles, c'est de la matière, le corps ne vaut rien. C'est pas ce que la Torah nous dit. Celui qui a créé la Neshama, c'est lui-même qui a créé le corps. Comment se fait-il que tu ne fais même pas attention à ton corps alors que la Neshama, l'esprit... Rentrer en Eretz Israël, ce qu'on a raté. C'est ça la source de Tisha B'Av. C'est qu'on n'a pas compris l'importance de cette terre. On a préféré rester dehors. Je vous rappelle que la nuit de Tisha B'Av, c'est la nuit où les explorateurs ont décidé qu'il était préférable de rester à New York. À Paris, à Bruxelles, à Nice. Eh oui, c'était le 9 Av. Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré. Et là aussi, je ne veux pas traduire parce que c'est galvauder en fait la Torah. Mais on a l'habitude de dire vous avez pleuré pour rien. Maintenant, je vais faire en sorte que vous pleuriez pour quelque chose jusqu'à la fin des temps. Parce que vous n'avez pas compris. Je vais vous lire ce que Moshe dit. Et vous allez voir pourquoi le livre de Dvarim est tellement important. Je vous rappelle que le livre de Dvarim commence par une expression que les sages disent qu'elle annule tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, fini. Comme s'il y avait un seul livre dans la Torah, puisque c'est les sages eux-mêmes qui nous disent cette règle. À chaque fois qu'il est marqué « Elle » et non pas « Ve » « Elle » mais c'est comme si on commençait quelque chose de nouveau. « Passal » est un rishonim. « Passal » « Passoul » Or, le livre de Dvarim commence par le mot « Elle ». Ça veut dire que tout ce que tu as cru comprendre dans Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, fais attention, c'est maintenant le véritable éclairage de tout ce que tu aurais pu lire avant. Et si tu ne comprends pas le livre de Dvarim, tu risques de tomber dans de graves erreurs. Alors, lorsque ces explorateurs, ces Meraglim viennent et disent leur conclusion, ce soir-là, va teragnu be'aholechem. Vous êtes allés, je vais le traduire, à ma sauce. Vous avez préféré rester dans des tentes plutôt que de venir construire des maisons sur la terre. Vous avez préféré rester des nomades, le juif errant, plutôt que venir dans la stabilité et concrétiser les valeurs du ciel sur terre. Mais oui, vous avez préféré rester religieux. Il y en a plein de religieux. Mais la Torah ne nous a jamais demandé d'être religieux. Elle nous a toujours demandé d'être une nation sur sa terre. Religieux, je peux être n'importe où dans le monde. La religion ne demande pas de territoire. Elle n'exige pas un territoire. La religion, c'est que du temps et des actions de l'homme. Il n'y a pas de lieu. Que je sois dans un trou, l'essentiel, c'est que je sois dans la prière, dans le lien avec l'Éternel. C'est ça la religion. Ce n'est pas du judaïsme, ça. Kadosh Baruch Hu nous donne des frontières, nous donne des phrases concrètes pour qu'on réalise toute la Torah sur notre terre. Des dizaines et des dizaines de versets, quand ? Dans le livre de Dvarim, précisément. Mais pour arriver à ce degré-là, il faut savoir aussi quel rapport je dois avoir avec la terre. Regardez le rapport de Moshe Rabbeinu. Moshe. Par rapport à la génération du peuple d'Israël qui est censé rentrer sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit, mon cher Rabbeinu ? Vayom va omar alechem, je vous ai dit, quand vous aviez peur de venir sur cette terre, vous battre, les attentats, l'armée, tous les problèmes de je ne sais quoi. Moi, Moshe, je vous ai dit, regardez l'honnêteté de l'homme. Lota arzun velotiraun. N'ayez pas peur. Adonai Elohechem, aolech lifnechem, hu ilachem lachem. C'est Dieu l'Éternel qui marche devant vous, qui va se battre pour vous. Kechol asher asa etchem bemitzrayim le'enechem. Exactement comme il a fait quand vous êtes sortis d'Égypte ou pendant l'Égypte. Et vous l'avez vu. Légitime ou pas? Très grande émouna de Moshe Rabbeinu. Rabotai, ça c'est la faute de Moshe Rabbeinu pour laquelle il n'est pas rentré en terre d'Israël. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il considère en réalité que le peuple d'Israël est encore infantile et qu'il a besoin de la participation divine tellement forte que vous, vous ne faites rien comme quand vous étiez à la sortie d'Égypte. Autrement dit, vous n'avez même pas évolué durant 40 ans. Terrible. Et ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, frapper le rocher. Frapper, ça veut dire tu comprends pas, je peux pas te parler, donc je suis obligé de te faire... Alors que Caleb ben Yefouné et Yoshua bin Nun, qu'est-ce qu'ils disent? Yachol nuchal la. C'est pas du tout ça. On va se battre. On va prendre les armes s'il le faut. Et on va gagner. Et on va réussir. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Mais c'est pas lui qui va faire le travail à notre place. Et Moshe, toujours dans son honnêteté, Vaishma Adonai et kol divrechem. Et Dieu a entendu vos peurs et tout ce que vous avez dit concernant cette terre. Vaiktof. Et il s'est mis en colère. Vaishava lemor. Il a juré en disant: Imir e ish ba anashima el hador haraze. Aucun de vous, toute cette génération mauvaise, ne verra pas du tout la terre d'Israël. Et taaretz atova, cette bonne terre. Asher nishbati la tête la avotechem, que j'ai juré de donner à vos pères. Zulati sof Kalev ben Yefouné, hu ir'ena. Lui la verra. Velo eten et haaretz, et à lui je donnerai la terre. Asher darachba, sur laquelle il a marché. Ulbanav, et aussi à ses enfants. Pourquoi? Ya'an asher mile achare Hashem. Parce qu'il a eu confiance en moi. Je lui ai dit que cette terre était bonne, et lui, il avait toujours cette confiance en moi, alors que les autres sont partis. Et Moshe, maintenant, il se met dans le film. Gambi hit anaf Hashem biglalchem. Moi aussi, j'ai reçu sur la tête. Même contre moi, Dieu s'est mis en colère. Parce que je vous ai dit ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, Dieu se battra pour vous, vous n'aurez rien à faire, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Gamata lotavosham. Toi aussi, tu ne viendras pas là-bas. Toi aussi, tu ne rentreras pas sur cette terre. C'est terrible. Moshe Rabbeinu, notre maître. Ça veut dire qu'il y a en réalité une prise de conscience que le maître doit avoir face à son public, face à la génération. Si je ne vois pas l'évolution de la génération et je lui parle à cette génération comme je lui parlais il y a 2000 ans, eh bien je suis dans une mentalité d'exil et je laisse les gens dans cette mentalité d'exil où que deviendra Tisha B'Av? Que des lois. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. À quelle heure je dois jeûner? Est-ce que je dois mettre les chaussures avant que le Shabbat est sorti? Avant le Shabbat est sorti, le machin, la Abdallah. Quand est-ce que tu as fait hier? Hier, tu n'as fait que sur la bougie. Très intéressant, très important. Mais quand ça devient que ça, mais t'es foutu. Tu pourras jeûner encore 5000 ans, Chas V'Shalom. Tu n'as rien compris. Tu as confondu la Torah avec des lois. Tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un juge, un avocat. Il nous a donné des livres de lois. Tu ne comprends pas qu'il s'agit ici d'une vie. Tu ne comprends pas qu'il s'agit ici d'un chazon, d'une vision. Que Dieu veut descendre sur terre. Et toi, tu l'empêches. Moralité, la faute des explorateurs, donc la faute qui est reliée à la terre d'Israël, c'est ce pourquoi nous pleurons aujourd'hui. Ne vous faites pas d'embrouille. Attention. Si vous allez seulement à la destruction du temple, vous n'allez rien comprendre. Ça vient de là. Et la Torah, pour bien te mettre les choses en face, elle te dit, attention, Tisha B'Av, tu vas lire en même temps le livre de Dvarim. Tu vas commencer Dvarim, dans lequel je vais te donner, dans la première paracha, qui est dans la même semaine que Tisha B'Av, hier, dans le même jour, la faute qui a conduit à la destruction du temple. Ah, c'est un petit peu loin, j'arrive pas à comprendre. Oh, c'est un peu loin quand même. Tu comprends pas? Tu ne fais pas le lien de cause à effet? Mais comment dans ta vie tu vas pouvoir vivre? C'est la même chose alors. Chaque fois que je te dis quelque chose maintenant, tu ne fais pas le rapport avec ce que tu as étudié hier. Comment tu vas avancer? Comment tu vas évoluer? Tu es toujours dans un rituel qui en réalité aggrave le moment dans lequel tu es sans savoir les causes. Et donc il va falloir que je sache maintenant quel est mon rôle sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire, quel est mon rôle sur cette terre? Eh bien, apparemment, je ne suis pas là que pour étudier la Torah. Je suis là pour réaliser la parole divine, qui est en l'occurrence la Torah, mais sur la terre, en tant que nation. Donc je dois fonder une nation. Donc je dois fonder un État. Donc il y a une mitzvah de la Torah de fonder un État. Et c'est ça qu'on n'a pas compris le jour de Tisha B'Av. Donc en réalité, on a détérioré quoi? La malchut, la royauté d'Israël. Et les Chachamim nous disent, mais c'est dommage, tu n'as pas compris que ce jour-là, c'est la naissance du roi. Alors tout le monde sait que le Mashiach est né à Tisha B'Av. Oh, c'est sympathique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le potentiel de la journée n'a jamais changé, il est toujours là. C'est un jour où tu peux en réalité formuler à nouveau l'état, la valeur divine dans une structure, je vais vous choquer, politique. Les gens, ils ont peur. Oh. Dieu dans la politique. Oh, chas v'shalom. Chas v'shalom de l'inverse. Si tu ne fais pas descendre à Kadosh Baruch Hu et tu l'habites dans toutes les structures d'un État, qui va tenir les rênes de cet État? Des gens qui n'ont pas du tout cette conscience. Donc c'est à toi de faire venir les valeurs du ciel dans cet État avec toutes les structures que cet État comporte. C'est exactement ce pourquoi nous sommes là. Vous voulez devenir comme ceux qui disent que Dieu est en haut, donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, vous séparez tout. C'est pas la Torah, ça. Regardez ce que la structure de l'exil nous a massacré. Et donc aujourd'hui, je me dois, je parle pour moi, de savoir ce pourquoi je suis là. De savoir restructurer ma vie. Je ne suis pas là parce qu'on est un groupe de juifs qui font des mitzvot ensemble. Je suis là pour créer un système économique, social, sécurité. Il faut que la prophétie revienne. Il faut que les juges, tels que la Torah les conçoit, reviennent. La Kehuna et la Malchut. un roi d'Israël. Si tu ne comprends pas tout ça, eh bien la Torah, ça va rester en fait des paroles, ça va rester une étude, ça va rester des textes. Mais les textes, je peux les étudier n'importe où. Quelle est la différence entre étudier un texte ici ou l'étudier à Brooklyn? C'est la même chose. Pas du tout. Ici, on n'étudie pas les textes, on les vit. Il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas des morceaux de papier, ce n'est pas des parchemins. La Torah, c'est la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la vie. Et le lien, le premier lien qu'il a avec nous, c'est la vie. Si tu ne vis pas, mais tu étudies que tu vis, ce n'est pas une vie. Étudier que je vis, ce n'est pas vivre. Je dois vivre ce que j'étudie. Moralité, depuis cette destruction, moralité, les sages nous disent Nital kavod mi bet chayenu ve knesset Israël nadeda me'arza. C'est-à-dire l'âme qui est l'assemblée d'Israël, qui est le collectif, le dénominateur commun, mais il s'est échappé, il a disparu. Donc s'il n'y a pas de dénominateur commun, qu'est-ce qu'il y a? Que des détails. Voilà, des détails. Il n'y a plus rien de commun. Moi, je suis différent de toi, elle est différente de moi. Donc chacun a raison, tout le monde a raison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fasse colle, il n'y a plus rien qui adhère, il n'y a plus rien qui fasse le lien entre nous. Puisque c'est ça, Knesset Israël, c'est ça la Shrina. Donc la Neshama du monde, elle est obscurcie. La lumière est cachée. Dans des brouillards. Ce qui veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Comme dans un brouillard. Tu avances très, très, très lentement et tu as peur de chaque instant que quelque chose apparaisse. Parce que tu vis dans un manque de confiance. Et en toi, et en l'avenir. Alors, bon, tu vas de temps en temps à un chiour, on te donne une petite piqûre d'espérance. Mais c'est pas ça. Rabotai, je parle d'un sujet qui est très grave, il s'appelle Chilul Hashem. Chilul Hashem, la profanation de son nom, pas Hashem, de lui. Lui, on ne peut pas le profaner. On peut profaner que son nom, c'est-à-dire son dévoilement sur terre. Ça, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que représente la Atzmaout Medinit, l'indépendance de la nation d'Israël. Vous savez qu'à la guerre des six jours, quand on a repris Jérusalem, certains hommes politiques de l'État d'Israël ont décrété, ça n'a pas été suivi, d'arrêter de jeûner à Tisha B'Av. En l'occurrence, Rivlin. Le grand-père de celui qui est maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait compris le sens réel pour lequel nous jeûnons. Étant donné que les choses sont en train de changer et ont changé, alors la question se pose réellement aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va arrêter ces jeûnes? Puisque c'est une prophétie aussi que ces jeûnes un jour vont cesser. Alors qui va faire le switch? Eh bien, il faut des rabbanim courageux qui disent « Atkan ». Il faut un Sanhedrin, il faut un changement de tfissa, d'approche de tout ce qu'on est en train de faire dans notre judaïsme. Rabotai, la Géoula que vous attendez, vous savez que c'est comme si vous étiez en train de cracher au visage de Dieu. Puisque selon le Rambam, la Géoula, c'est ce qu'on est en train de vivre déjà maintenant. Alors quand tu dis « j'attends la Géoula », tu vis dans un déni. Il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris que la Géoula, c'est le bonhomme, Monsieur Mashiach. Pas de Monsieur Mashiach, pas de Géoula. Mais où tu as vu ça ? Et c'est marqué où ? Encore une fois, dans le livre de Dvarim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va revenir avec toi, lorsque tu reviendras sur la terre et qu'il y aura le rassemblement des exilés, c'est la Géoula. C'est comme ça que dit le Rambam. C'est un livre de Halakha. Un seul verset apporte le Rambam. Un seul. De toute la Torah, de tout le Tanakh, des prophètes, un seul verset. Quand tu seras paumé au fin fond des cieux, Dieu te ramènera sur la terre. Et il dit que c'est sa seule référence à la Géoula. Donc, pour le Rambam, Géoula égale indépendance de l'État d'Israël, puisque nous ne sommes plus assujettis aux nations du monde. Alors, il faut faire très attention comment vous demandez la Géoula. Parce que ou vous êtes dans l'ingratitude totale, ou bien vous formulez votre demande différemment. Et il faut formuler différemment. J'attends la Géoula Shlema. Je suis en plein dans la Géoula déjà. Et pour ceux qui pensaient que la Géoula, c'est, je ne sais pas quoi, des fleurs et des machins qui tombent du ciel, où vous avez vu une chose pareille ? Qui vous a dit ça ? Dans quel dessin animé vous avez étudié la Torah ? Même pendant les moments les plus glorieux d'Israël, on était dans le temple de Jérusalem et on nous tirait des flèches. C'est-à-dire des obus. C'est pareil. De l'époque. Et on faisait les korbanot, il y avait le Betamigdash et tout le monde venait avec les loulavim et tout ça. Et les autres, ils nous tiraient des flèches. Alors quoi, on disait qu'il n'y avait rien, c'était pas du tout, il n'y avait pas de temple, il n'y avait rien, parce que... D'ailleurs, c'est un développement que tu peux développer dans ta vie. Hein. À chaque fois, tu vas râler parce que ce n'est pas complet comme tu veux, mais ça ne sera jamais complet comme tu veux. Donc aujourd'hui, c'est tordu, et demain, c'est toujours tordu, et après-demain, c'est tordu, et tout ce que tu achètes, c'est tordu. Tu n'as jamais rien de bien. Il te manque toujours quelque chose. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils sont toujours dans le manque. Je ne suis pas bien, j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et j'ai pas vu ci, j'ai pas... C'est de l'ingratitude totale, continuelle. Et lorsqu'on n'a pas conscience de ça, eh bien, Chas v'Shalom, on ne peut plus jouer notre rôle. Puisque notre rôle, c'est Adonai Elohav Imo ou Teruat Melech Bo. Ce que vous dites pendant la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah. Adonai Elohav Imo, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Traduction archinaze en français, ça ne veut rien dire, toutes ces traductions, ça me rend fou. Adonai Elohav, ce sont deux noms d'Hachem. C'est le tétragramme et le nom de Elohim à côté. C'est seulement lorsque tu fais le lien de ces deux noms que tu fais le lien entre tous les mondes. Et si tu fais ce lien entre tous les mondes, Adonai Elohav Imo, avec lui, eh bien la teruah, comme le shofar du roi, Melech, Bo, c'est lui. Autrement dit, Dieu nous utilise comme son shofar. Et il nous souffle dedans. Et nous sommes le souffle de Dieu sur terre. Extraordinaire. C'est-à-dire le son divin qui sort dans le monde, c'est nous. Avec d'autres mots, la nation d'Israël est le porte-parole du Verbe de l'infini. Ça, c'est la condition normale. Mais si tu ne comprends pas ce que tu es venu faire, eh bien tu vas tomber encore une fois dans... Et regardez comment les sages et la Torah convergent toujours vers le même point. Le jour où Yaakov est revenu en terre d'Israël après avoir passé autant d'années chez Laban, et que l'ange, vous vous rappelez, vient se battre avec lui pendant toute la nuit, où est-ce qu'il a touché? À la Brit Mila. On dit ça, la hanche. Mais en réalité, les sages nous disent, qu'est-ce que c'est que cette Brit Mila? Eh bien, selon la Kabbalah, le Hari HaKadosh nous dit, c'est Tisha B'Av. C'est-à-dire, il a frappé Yaakov dans un point de son corps qui correspond aux 9 Av dans le temps. Vous avez compris? Il n'y a qu'une correspondance entre le corps humain et le temps. Ça veut dire que le temps et le corps humain sont deux films. Je peux voir des correspondances. Donc, quel est le membre du corps aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, la Brit Mila de l'homme? Magnifique. D'ailleurs, dans la Kabbalah, c'est la 9e sphère depuis Keter. Donc, c'est le 9. De qui? De l'homme, de papa. Tisha B'Av. Abba, Av. Le 9e degré de l'homme. Magnifique. Et c'est là-bas où il a été touché. Or, comment on appelle ce lieu, ou ce degré, ou cette partie du corps, ce membre? Gid Hanaché. Naché, Nashim. Le membre qui correspond aux femmes. C'est ce qui fait le lien. Mais en hébreu, Neshia veut dire oubli. Donc Gid Hanaché peut être le membre de l'oubli. Si tu n'as pas de souvenir actif, tu vas oublier. Si tu ne comprendras pas, tu oublieras. Et tu vas même appeler ton fils Menaché pour oublier celui qui me fait oublier. Pourquoi Yosef a appelé son fils Menaché? Pour oublier toute la tragédie que j'ai passée avec mon papa. C'est ce qu'il dit. Kinashani, j'ai oublié, je veux oublier. Ephraim, c'est le deuxième, je vais me développer. Pérou, Urvu, Ephraim, Piria, Verivia, dans un nouveau pays. Et mais c'est la même chose. Gid Hanaché, le membre de l'oubli. Terrible. Et ça correspond à Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av, il va falloir quoi? Bien corriger cet oubli. Par quoi on corrige l'oubli? Par le travail du souvenir, de la mémoire active? Par le zikaron, par le zachar? Et il faut que je sache que si Yaakov a été frappé à cet endroit, c'est parce qu'il a continuer son combat et qu'il a gagné, qu'il a battu cet ange, qu'il est devenu Israël. Sinon, il serait resté Yaakov. Et Yaakov, c'est-à-dire le juif de l'exil. C'est ça ce que nous disent les sages. À chaque fois que Yaakov apparaît en tant que Yaakov dans la Torah, c'est qu'il est encore en exil. Alors que quand il s'appelle Israël, c'est déjà projection sur la fin des temps. Tout est relié. Et ce combat va faire en sorte que Yaakov revient sur la terre. Et quand est-ce qu'il prend la décision, Yaakov, de revenir sur la terre d'Israël? Il se lève un matin, il se dit, bon, ça y est, j'en ai marre, c'est un voleur, Lavan, il m'a roulé. Quand est-ce qu'il prend la décision de venir? Le jour où Yosef est né. Bizarre quand même. Vous savez ce que c'est la valeur numérique de Yosef? 156. Tzion. C'est-à-dire le jour où le Tzion est né, le jour où le sionisme est né, Yaakov décide de monter en Israël. C'est magnifique. Et c'est ce jour-là, à l'aéroport, où les nations du monde, c'est-à-dire l'ONU, ne va pas le laisser rentrer, il va falloir se battre. Et malgré les nations, lorsqu'Israël tient, eh bien tout le monde va voter, même s'il regrette après. C'est ce qui s'est passé avec l'ange. Il lui a dit, je te lâche pas seulement si tu rétroactivement, tu me dis que je peux rentrer, je suis béni, tu es béni. Oui, oui, tu es béni, lâche-moi, ça suffit. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, vas-y, prends cette terre. Aujourd'hui, il se mord les doigts. Comme l'autre ange, pareil. Une fois qu'il a quitté Yaakov, qu'il est monté, il s'est dit, mince, j'aurais dû le terminer. Rabotai, toute cette histoire, c'est Tisha B'Av. Regardez où je vous ai amené. Vous êtes venu au cours avec destruction du temple. Mais ça va loin, c'est beaucoup plus large. Alma avda haaretz al ozvam et torati. Shelo, deuxième version, je vous ai dit, il y a plusieurs versions. Alma avda haaretz, shelo berchu batorah trila. Pourquoi la terre a été détruite? Pas détruite, mais abandonnée, perdue. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant de lire la Torah. Bah, tu fais la bracha avant de lire la Torah? Tous ceux qui montent à la Torah, ils font la bracha, non? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Voilà, c'est ça que ne faisaient pas les gens. C'est pour ça que la terre a été... C'est quoi ce truc-là? Quoi? C'était des religieux, quoi? Ils ne faisaient pas la bracha avant de monter à la Torah? N'importe quel bar mitzvah, quand il monte à la Torah, il sait la bracha. Et même, tu n'as pas besoin de monter à la Torah tous les matins, tu le dis, cette bracha dans les brachot ha-shachar, birkot ha-shachar. Alors quoi? Mais ben oui, mais tu peux dire la bracha, mais ne pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que je te l'ai redite. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Si je n'ai pas compris que je suis une nation qui a été choisie d'être créée par Akadosh Baruch Hu pour donner à cette nation sa Torah et Torato, eh bien, je suis à côté de la plaque. Je risque de tout perdre. Mais c'est ça qu'il faut que je me rappelle. Donc, Shelo Berchu Batorah Trila, c'est pas qu'ils n'ont pas fait la bénédiction avant de manger ou avant de monter à la Torah ou... Arrêtez. C'est qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient une nation avant d'aborder la Torah. Et quand tu abordes la Torah sans être nation, eh bien tu tombes dans la religion. Et tu peux être très, très religieux, très pratiquant, mais tu ne vis pas au sein de ton peuple. C'est ça le Inyan. Yerushalayim, ce n'est pas une ville. Les Chachamim donnent à Yerushalayim un corps. Ça devient une femme. Elle a des oreilles. Lech vekarata beozne Yerushalayim. Va lui parler à l'oreille. Chuchote-lui à Jérusalem dans ses oreilles. Vous avez déjà vu les oreilles de Jérusalem? Mais oui. Zahar Tilach Chesed Neuraïch, tu lui parles comme si tu étais amoureux d'une femme. Je me rappelle tout le bien que tu m'as fait quand on était encore célibataire. C'est ça qu'il faut dire à Jérusalem, c'est le prophète qui nous le dit. Ah, Vat Kloulotaïch, quand tu étais amoureuse de moi, Be'eretz Lozoa, alors que j'avais rien encore. Tu t'es pas mariée avec moi parce que j'avais du fric. Je t'ai proposé un voyage dans le désert, tu ne savais même pas où aller et tu m'as suivi. Donc qui c'est Jérusalem? C'est l'assemblée d'Israël, encore une fois. C'est pour ça qu'elle a des oreilles, c'est pour ça qu'elle a une bouche. C'est pour ça qu'il faut lui mettre des colliers d'or. Mais si on est sclérosé dans des... On ne peut pas évoluer. Rabotaï, moi je crie un cri de l'intérieur de chez moi. J'en ai marre de vivre ce genre de Tisha B'Av. C'est fini. Il faut arrêter. Il faut comprendre la source des choses. Il faut corriger les choses. Baruch HaShem, nous sommes dans une génération où nos enfants sont des merveilles. Bli Ayin Hara. Des courageux, regardez les soldats de Tzahal. Est-ce qu'il y a plus grande fierté que ça? Ça, c'est la correction de tout. On a corrigé 99,9 de tout ce qu'on a raté. Il ne reste plus rien. C'est rien, c'est des petites... des finishes. Mais il faut prendre conscience de ça. Si tu continues à pleurer comme si c'est rien passé, tu n'as rien compris. Et si tu n'as rien compris, les autres vont te voler ton identité. À savoir la chrétienté et l'islam. Ils vont te voler ton drapeau, ils vont te voler tous les noms, ils vont te voler toutes les définitions, ils vont te voler tout ce que tu as inventé un jour dans ta vie, ce que tu as amené au monde, ils vont essayer de le piquer. Parce que tu ne te bats pas, c'est à toi. Il faut revenir à ce courage. Et là, je vous donne et je termine avec ça. Je pense sincèrement qu'il y a une seule correction qui englobe toutes les corrections. Ça s'appelle le courage. Ometz. Le courage de quoi ? De redevenir ce que nous sommes à la base, c'est-à-dire grand. D'arrêter de nous considérer comme des petits. De savoir que nous sommes forts. Qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Que nous sommes dans l'équipe gagnante. Que nous avons fait déjà pratiquement tout le chemin. Et que nous sommes optimistes. Et grâce à ce courage, eh bien, il faut l'injecter tous les jours. Et je dis à mes élèves, allez à des cours où on vous donne ce courage. Quand vous sortez d'un cours, vous devez être comme des lions. Ça y est, je change. J'ai décidé de changer. Ça y est, j'en ai marre d'être une mauviette. Je veux redevenir ce que j'étais à la source. C'est ça. C'est avec cette force que tu dois sortir d'un cours. Et si le Rav ne te fait pas ça, change. Change. Va chez un Rav qui te stimule, que lorsque tu sors de son cours, tu as envie de bouffer le monde. Quand je sors d'un cours de mon maître, j'ai envie d'écrire un livre entier. Un livre entier d'un cours. Une genre de tremblement de terre intérieur qui m'a pris, fait prendre conscience de « Waouh, tu t'es paumé là, ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas étudié, tu es parti en cacahuète, reviens. » Et aujourd'hui, la seule question que je vous pose, et posez-vous-la, vous-même, tous les jours, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ta nation ? Be'ezrat Hashem, nous sommes dans une courbe ascendante, et rien ne nous arrête. Nous sommes grands, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous accompagne, mais il nous demande d'agir, d'être nous-mêmes les acteurs de notre histoire. Et nous sommes en train d'écrire aujourd'hui déjà Divrei Hayamim Gimel. C'est notre histoire aujourd'hui. Dans 200 ans, on va raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors tâchez de paraître bien parce que sinon on va dire c'était des nazes. Alors on n'est pas des nazes, Baruch Hashem, on va réussir. Et on est déjà en train de réussir. Toda Rabba.